Alors, en fait, vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, pour la collecte, j'avais eu à cœur un passage qui m'avait vraiment frappée dans Jérémie 35. Et du coup, voilà, ça valait le coup de le creuser. Alors, c'est dans Jérémie 35, les versets 1 à 17. Et c'est une histoire intéressante de l'Ancien Testament. Je ne l'avais jamais vraiment repérée jusqu'à récemment. Et là, elle m'avait frappée. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille des Récabites, parle-leur et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur donneras du vin à boire. Ok, Dieu dit à Jérémie d'inviter cette famille. Jusque-là, ça paraît tout à fait normal. Donc, je ne vous lis pas tous les détails. Je prie donc tel nom, tous les Récabites. Je les emmenais au temple de l'Éternel, dans telle salle, etc. Tout est précisé. Je plaçais devant les Récabites des bols remplis de vin ainsi que des coupes et je les invitais à boire. Le prophète, il écoute, il obéit à ce que Dieu dit. Jusque-là, pas de problème. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné ses ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants, à perpétuité, pour toujours. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes et vous ne posséderez rien de cela. Pendant toute votre vie, vous habiterez sous des tentes afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous n'êtes que des étrangers. Alors, une petite précision. Qui étaient les Récabites? Alors, dans le dictionnaire biblique, ça me disait que c'était une branche des Kéniens qui étaient des forgerons itinérants, qui demeurait cependant au milieu du peuple d'Israël. Et moi, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai relu, je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé de ne pas boire de vin? Ben non, c'est leur ancêtre. Et ils ont obéi de génération en génération. Non seulement ils ne buvaient pas de vin, mais ils n'habitaient pas dans des maisons, etc., pour garder ce côté forgeron nomade. D'accord? Mais ils ont obéi. Et Dieu, il le sait évidemment. Mais c'est comme leur vœu. Et Dieu les prend en exemple. En fait, c'est ça qu'il voulait. Il avait un plan. Il loue l'obéissance des Récabites et ça fait d'autant plus ressortir la désobéissance de son peuple, d'Urin. Alors, on prend la suite du texte. Alors, l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne comprendrez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles? Dit l'Éternel. Les descendants de Yonadab, fils de Récab, ils ont respecté les ordres que leur ancêtre leur a donnés. Ils leur avaient défendu de boire du vin, et ils n'en ont jamais bu jusqu'à ce jour, pour se conformer à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je n'ai cessé de vous parler? Mais vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs les prophètes pour vous dire « Abandonnez votre conduite mauvaise, faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour leur rendre un culte et vous demeurerez dans le pays que je vous ai donné, à vous comme à vos ancêtres. » Mais vous n'avez pas prêté attention et vous ne m'avez pas écouté. Les descendants de Yonadab, fils de Récab, ils ont obéi aux ordres de leurs ancêtres, mais ce peuple, mon peuple, ne m'a pas écouté. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs dont je les ai menacés, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. C'est pas de gaieté de cœur, hein. On sent la frustration, la tristesse du Seigneur. Mais qui n'a jamais connu cette frustration de ne pas être écouté? Alors, en tant que parent, mais écoute, mais je te l'ai dit, tout le monde sait. En tant qu'enseignant, n'en parlons pas, j'ai l'impression de passer mes journées à redire. Il faut écouter, sinon la leçon, ça ne sera pas possible d'avancer si on n'écoute pas. Mais quand même, j'ai été interpellée récemment et je pense que ce sentiment de ne pas être écoutée peut commencer très jeune. Et je me suis rappelée comment une fois dans ma famille, Alors, j'ai une petite sœur et on était deux avant elle. Et un soir à table, elle s'est mise à faire bla 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 bla. On s'est arrêté net. Et là, mes parents, après, ils ont compris. Elle avait besoin de son temps de parole. Parce que les grands, ils ont toujours quelque chose de plus intéressant à dire. J'ai connu aussi le cas d'une élève, la quatrième d'une famille avec des gens tous extraordinaires. Mais elle, elle était la quatrième. Et quand elle est arrivée dans ma classe, les parents m'ont dit, mais vous avez vu son problème, elle bégait. Je dis, ah bon ? Non. Mais si, 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 on vous assure, à la maison, elle n'arrête pas de bégayer. Ah bon ? Puis j'ai essayé, observé. Non, en classe, elle ne bégayait pas, pour le coup. Parce qu'elle avait son temps de parole comme les autres. Donc, des fois, on ne se rend pas compte, mais ça peut être une souffrance dès tout petit. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui en profite des fois pour insinuer un mensonge. Tu sais, dans ta famille, on ne t'écoute pas, tu n'es pas aimé, tu n'es pas reconnu. Et puis, il y a plein de choses comme ça. Et ça, on le sait avec le ministère de la Maison d'Élie. Et le problème, c'est que quand on grandit avec un mensonge comme ça, même si après, les gens essayent, de vous écouter, vous ne vous sentirez toujours pas écouté, même dans l'Église. Et là, on a besoin de prier pour une guérison en profondeur. Et donc, ceux-là, je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté, c'est Dieu qui parle, qui exprime sa frustration. Et bien sûr, Dieu nous a créés pour quoi ? Pour avoir une relation avec nous. Vous rappelez les rendez-vous de Dieu avec Adam et Ève dans le jardin le soir, au moment de la brise du soir. Alors j'ai cherché, et écouter en hébreu, ça se dit shma, et ça veut dire s'appliquer à entendre, prêter son attention à. Et la différence entre écouter et entendre, en fait, entendre, c'est une capacité physique grâce à nos oreilles. C'est un acte passif, tout simplement, c'est un constat. Si je ne suis pas sourde, oh c'est gentil, merci. J'entends bébé pleurer. Mais, ou j'entends du bruit dans la rue. Alors qu'écouter, c'est une capacité du cerveau, cognitive, une capacité intellectuelle qui fait que vous cherchez à comprendre. Vous cherchez vraiment à percevoir un son, à entendre. Vous êtes actif. J'écoute si le bébé s'est réveillé, s'il pleure. C'est intentionnel. C'est donc un choix d'écouter, un choix de chercher à entendre comme Shema, Shema Israël. Et on connaît tous l'histoire du jeune Samuel dans la Bible, à qui le sacrificateur Élie avait recommandé de dire, s'il entendait à nouveau son nom qui était appelé, puisque ce n'était pas lui, puisque lui il dormait, « Tu diras la prochaine fois, parle Seigneur, ton serviteur, écoute !» Et ça, c'était dans 1 Samuel 3, verset 9. Et donc, notre part à nous, ma part à moi, c'est quoi ? Je veux me remettre en question, avoir ce cœur pour écouter, chercher à entendre Dieu, chercher à entendre l'autre, chercher à entendre son cœur au-delà des apparences. Sinon, comment est-ce que je pourrais reprendre mes élèves qui ont du mal à écouter, si moi, je ne fais pas l'effort d'écouter ? Alors, puisque je parle de mes élèves, j'essaie de leur faire prendre conscience qu'ils ne peuvent pas parler en même temps que la prof, ou que vous, vous parlez. J'ai fait le test, je leur ai demandé « Alors, qu'est-ce que je viens de dire ?» Alors, il y a un mot ou deux, mais ça ne suffit pas. Donc, par A plus B, on essaye de montrer que non, je ne peux pas vraiment écouter si en même temps je parle. Je ne peux pas vraiment écouter si à côté, quelqu'un me parle. Alors, si on fait des remarques à voix haute, etc., j'empêche l'autre d'entendre. Alors, on a Ecclésiaste 3, verset 7, qui nous dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Et puis le cri de Job, je trouvais ça intéressant, au chapitre 13, verset 13. « Taisez-vous donc et laissez-moi parler !» Il y a des moments où ça sort. « Taisez-vous, je veux parler !» Et donc, pour une bonne communication, bizarrement, puisque quand on dit communication, on a l'impression qu'on va parler, ben non, pour une bonne communication, je dois d'abord apprendre à me taire. C'est pas évident. C'est continuer mon idée, mais d'abord entendre ce qu'il a à dire. Et je parlerai après. C'est un effort, c'est vrai, des fois, surtout quand tu es passionné, c'est pas facile. Mais pour Dieu, alors lui, c'est plus difficile des fois, parce que est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on le voit? Enfin, on n'entend pas sa voix audible, rarement, hein. C'est plus difficile. Et c'est là où je pense que c'est bien de se redire, Dieu peut me parler par des versets de la Bible, c'est pas pour rien qu'on l'appelle sa parole, il peut me parler par une pensée, évidemment en accord avec la Bible, c'est pour ça qu'il faut que je la connaisse, et aussi par la paix qui accompagne cette pensée ou cette parole ou ce verset. Et à l'inverse, un manque de paix est souvent une façon dont Dieu veut nous alerter, nous dire « attention ». Alors comment faire ? Ben, on va apprendre au fur et à mesure de la marche. « Ah, oh, c'était Dieu, je n'ai pas écouté. Ah ben, la prochaine fois, peut-être que je vais faire plus attention ». Je me rappelle, souvent c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves quand ils me disent « mais comment on entend la voix de Dieu ?» Alors je leur redis ce que je viens de vous dire. Et puis je leur donne l'exemple d'une fois où je devais prendre mon RER et j'ai eu la pensée « cours, sinon tu vas rater ton train ». Ben non, j'ai encore 10 minutes. Mais pourquoi j'ai pensé au RER ? C'est bizarre. « Cours, sinon tu vas rater ton train ». Oh là, mon imagination, ça devient bizarre. Non, non, j'ai raisonné, je me suis dit non, non, c'est dans 10 minutes, j'ai pas envie de courir. Et puis j'arrive au bout et je voyais, donc je n'ai pas couru, et je vois la gare de loin et je vois le RER qui arrive. 5 bonnes minutes en avance. Alors si j'avais couru, je l'aurais eu, mais je n'avais pas oublié à temps, j'ai raté mon RER. J'ai dit, c'était Dieu, flûte, la prochaine fois. Mais on n'aurait pas forcément autant, j'oublierai. Une autre fois, alors ça c'était une pensée, mais une autre fois, un manque de paix bizarre, c'était un soir, j'allais chercher je ne sais plus lequel de mes enfants au conservatoire à Gisors, il faisait nuit, et je voulais me garer comme d'habitude, et un manque de paix, même un sentiment d'oppression, mais bizarre, et je voulais reculer. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Je regarde autour, je vois dans le rétro, rien. Et pourquoi j'ai ce manque de paix tellement fort ? Alors je me raisonne, je dis, mais je me suis toujours regardée ici, il n'y a pas de raison. Je recule, bang ! Je suis sortie, il y avait un poteau. Vous savez les poteaux là qu'on ne voit pas depuis le rétro ? Je dis, Seigneur, c'était toi ! Et flûte ! Manque de paix. Et je n'avais pas écouté. Donc on apprend comme ça, hein. On apprend à reconnaître la voix de ses amis, de ses parents, de ses enfants, et on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Alors quand même, un exemple positif. La dernière fois où j'ai senti vraiment ce « attention », c'était en voyant un panneau. Vous savez, les panneaux qui vous indiquent 50 et ça clignote et ils vous mettent « danger » quand vous dépassez. Et là, bizarrement, à la sortie de Gisors, ça m'interpelle. Et je me dis « c'est bizarre, pourquoi je me sens, pourquoi j'ai l'impression de me parler, de me dire qu'il y a un danger ?» Alors j'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à prier pour la protection, pour le trajet. Et j'étais en alerte quelque part. Et du coup, je continue à rouler quand même. Hein, et je me retrouve sur une double voie, dans une montée, en sortant de Gisors, on traverse les bois. Et brusquement, devant moi, il faisait nuit, une masse sombre. Un sanglier ! Trop tard, parce qu'il y avait deux. J'ai mis mes feux de détresse. Il est passé, ouf. Et je me dis, bah, ça va, ça devait être ça l'alerte. Je continue. Ah ! Un autre qui était en train de passer, et un autre qui suivait. Vous savez, quand ils se suivent, charmante bête, je me suis dit, Seigneur, au secours, qu'est-ce que je vais faire ? Mais comment ? Je n'ai pas le temps de piler. Alors je me dis, bah, il faut que je me faufile, mais ils se suivent de trop près, je ne vais pas pouvoir. Puis en même temps que vous réfléchissez et que vous priez, vous êtes en train d'avancer parce que... Et je me suis dit, ah, je vais le toucher, ce n'est pas possible, parce que se faufiler entre deux sangliers. Et puis, je n'ai rien senti. J'ai continué, j'ai regardé dans mon rétro. Ils étaient en train de continuer à traverser. Je n'ai toujours pas compris comment ma voiture avait pu se faufiler entre les deux sangliers. Mais en attendant, je ne les ai pas touchés cette fois-ci. Et donc, j'étais très, très soulagée. Et vous voyez, si je n'avais pas prié, si le Seigneur ne m'avait pas averti, je n'aurais pas été en alerte comme ça. Donc, c'est important. Et quand bien même je me serais trompée, ça ne fait pas de mal de prier. Donc, ça, c'est... On apprend à reconnaître la voix de Dieu. Et une autre pensée, est-ce que je laisse du temps à Dieu pour me parler ? Parce que dans une conversation, ben on va parler, mais on va écouter l'autre, normalement. Mais avec Dieu, encore une fois, c'est spécial, c'est pas pareil. On ne le voit pas, on ne l'entend pas aussi clairement que quand je parle avec Philippe, quoi. Alors, même dans l'intercession des fois, ou dans, plutôt dans la prière, je peux très bien lui présenter toute ma liste et ne pas m'arrêter. Et dans mes trajets, j'aime beaucoup avoir ma demi-heure de trajet, je vous avoue, parce que c'est mon temps spécial avec le Seigneur. Et j'aime tellement ce temps à part. Mais des fois, je me rends compte que je lui ai parlé tout du long et je ne lui ai pas laissé en placer une. C'est tout simple, hein. Ou des fois, au retour, je vais avoir envie de mettre les infos, puis certaines fois, je me dis, non, on coupe. Seigneur, t'as pas des choses à me dire, peut-être, ou qu'on revoit la journée, que tu me montres là où peut-être il y a eu des couacs. Et est-ce que je suis consciente qu'il est là sans cesse à mes côtés? Est-ce que je suis consciente, est-ce que je réalise le privilège d'avoir reçu le Saint-Esprit, qui est le consolateur, un conseiller? Est-ce que je suis prête à l'écouter n'importe quand, même dans des endroits où je ne m'attendrai pas à ce qu'il me parle? Ou est-ce que je suis sans cesse une ligne occupée, vous savez, du style « Veuillez rappeler ultérieurement, votre correspondant est en communication. » Même pour des choses bonnes en soi, hein, comme écouter les infos, il n'y a rien de mauvais en soi, mais est-ce que je laisse du temps au Seigneur pour me parler? Alors j'aime qu'il me guide dans mes courses. Qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est... Ouais. Et puis il y a autre chose, moi je me trouve toujours des justifications, bien sûr. Mais Dieu veut m'aider à voir mes torts. Ah, là tu ne lui as pas bien parlé. Et il faut que j'apprenne à écouter, même quand ça ne me plaît pas trop, même quand je suis reprise. Et à moi d'apprendre à régler les choses. Alors souvent, on va réaliser peut-être un peu plus tard, pas forcément sur le moment, et il faut rectifier le tir le plus vite possible. Dernièrement, il y a une petite... Alors c'est vrai que dans une classe, il y a un moment où vous avez répété, et puis il y a des comportements, ça me hérisse, et je peux très bien ne pas bien réagir. Et il y a eu une fois où le soir, le Seigneur m'a montré, Cyrine, t'as vu? Bien sûr qu'il fallait la reprendre, mais la façon dont tu l'as fait... Et là, ça m'apparaissait, et j'étais mal. Donc le lendemain matin, j'ai guetté Cyrine, à peine elle est arrivée. « Pardon pour hier, j'aurais pas dû te reprendre de cette façon-là. Je suis désolée, Cyrine. » Elle m'a fait un grand sourire, c'était bon. On arrive en classe, le problème c'est que ça avait été fait devant les autres. Donc quand vous... C'est injuste devant d'autres, il faut que les autres sachent aussi. Du coup, on arrive devant la classe et je leur dis, vous savez, je veux redemander pardon à Cyrine devant vous parce que vous êtes témoin et la façon dont je l'ai reprise hier, ce n'était pas juste. Et vous avez dû le sentir et j'en ai vu une qui a fait oui. Je me dis, heureusement. Mais ce que j'ai aimé, c'est que même si c'est une classe pas évidente avec des petits durs quand même, déjà en CM, il y en a un dernièrement qui m'a dit à la fin de la journée, « Pardon, maîtresse, on n'a pas été sage. Hein. » Oh, super. Et là, boum, tout retombe d'un coup. « Mais bien sûr, mais tout va bien. Merci, Maxence. Ça fait du bien. » Et on peut semer si on vit les choses. Et on va récolter. Mais il faut qu'on se taise pour pouvoir écouter. Et une autre raison de se taire, c'est justement l'état de notre cœur. Parce que quand on est blessé, en colère, ou tout simplement épuisé, on risque de ne pas dire les choses correctement, comme ce que j'avais fait vis-à-vis de Cyrine. Et il nous faut souvent attendre d'être prêt pour parler sans colère, sans amertume. Et là, c'est difficile. Alors, j'avais envie de redire, quand on a besoin de pardonner, on a pardonné, je les pardonne, comme mes élèves. Pardon, rien. Pardon. Pardon, Cléa. T'es sûre que tu as demandé pardon? Pardon, Cléa. Ok, ça va. Mais pour nous, vous savez ce qui se passe dans nos cœurs. On a besoin, et le pardon, c'est comme un des... L'offense revient, et j'ai besoin de pardonner à nouveau. Et oui, et puis j'ai besoin de nettoyer à nouveau. On remet du désinfectant. Et je choisis de pardonner jusqu'à ce que ce soit cicatrisé. Jusqu'à ce que ça ne me fasse plus mal comme ça. Même si ça doit prendre un certain temps. Et puis, ce qui aide beaucoup, ah ça c'est la crème cicatrisante, c'est prier pour l'autre, le bénir. Encore et encore. et demander que Dieu nous donne son amour, ses yeux pour lui ou pour elle. Alors, on peut faire un constat négatif, hein, on n'est pas dans l'autruche. Hein. On peut voir des choses qui ne vont pas chez l'autre, on peut voir des choses qui nous ont vraiment blessés, essayer d'être le plus objectif possible, mais c'est un choix de prier pour la personne. Quand on parle à plusieurs, qu'on fait un constat négatif à plusieurs, ben on choisit de bénir après, on choisit de prier, parce qu'on veut que ça devienne un style de vie, un ministère d'intercesseur et pas d'accusateur. On est d'accord. Et ça, ça doit être un réflexe. Et puis on a besoin de se rappeler aussi que c'est ma perception et le ressenti ment. On a rarement tout juste. Et c'est tellement important d'avoir le réflexe de commencer par se remettre en question. Parce qu'on voit les choses avec notre perspective, mais l'autre aussi. Et si on change la longue vue de côté, ça va tout changer aussi. Je me rappelle, à une période, il y avait les prières de quelqu'un qui me gênait. Parce que ça partait dans l'émotionnel, les larmes et tout ça, et j'étais mal à l'aise. C'était pénible, quoi, parce que je me disais, mince. Et il me semble que le Seigneur m'a donné un truc, et j'ai fait ça depuis. Je priais, Seigneur, si, d'abord moi, si c'est un esprit religieux qui s'agite en moi parce que l'autre prie comme ça, dégage-moi de tout esprit religieux, s'il te plaît, Seigneur, au secours. Mais si il y a un problème émotionnel peut-être chez l'autre, guéris-le. Puis s'il y a un peu des deux, toi tu sais, mais fais ton œuvre. Mais je veux d'abord voir, me remettre en question moi. Pas tout mettre sur l'autre, c'est trop facile. Et bibliquement, cela correspond à Luc 6, les versets 41 et 42. Alors tout le monde connaît ce passage, mais quand même. Pourquoi vois-tu, alors dans cette traduction-là, c'est les grains de sciure, c'est tout petit, hein, dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, c'est Jésus qui parle. Hein. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Et verset 45, ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Combien on a besoin de revenir aux pieds de Jésus. Comme dans le psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, ou dans d'autres versions, examine-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si on a une attitude juste, Dieu pourra purifier nos cœurs et ôter aussi les bouchons de nos oreilles, ôter les poutres et tout ce qu'il faut. Et quand ce sera le temps de parler, puisqu'il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, même si ça nous coûte des fois, là on pourra peut-être parler avec plus d'humilité, avec amour, dans un bon état d'esprit, en faisant aussi attention à la façon de présenter les choses. Pas « tu », on sait les dégâts que ça peut faire, mais plutôt « je prends sur moi encore une fois ». J'ai l'impression que je suis mal à l'aise quand j'ai un problème avec cette façon de faire. Donc, toute la charge n'est pas sur l'autre, mais je suppose que moi, j'ai ma part. Et on fait attention. Et un verset que Philippe m'a souvent répété, Jacques 3, versets 17 et 18. La sagesse de Dieu est d'abord pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de bonté et de bons fruits. Elle ne prend pas parti et elle est sans hypocrisie. Tout un programme. Hein. Alors du coup, comme on parlait de ne pas prendre parti avec Philippe, hein, il y a un verset qui nous est revenu. Alors le contexte, c'est dans Josué. Les espions israélites sont revenus de Jéricho. Le peuple a traversé, avec un grand miracle encore, le Jourdain, le peuple s'est consacré. Les derniers, la nouvelle génération, les hommes ont été circoncis. Et Josué attend les directives du Seigneur. Et verset 13 du chapitre 5 de Josué. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué, courageux quand même, s'avança vers lui et lui demanda « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»«
Non, » répondit l'homme.
« Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Dieu ne prend pas parti. Il voit les cœurs, les souffrances de chaque côté. Et là, ce qui m'a surpris, là en relisant hier soir, au lieu de donner des ordres de combat à Josué, il lui rappelle la sainteté de Dieu. Et ça m'a rappelé Moïse devant le buisson ardent. L'ordre de mission n'arrivera qu'ensuite, après le temps de révélation, dans la présence sainte de Dieu. Et on a tellement besoin d'adorer pour pouvoir après entendre ce que Dieu veut nous dire. Et merci à Samuel, le psaume 24, mais là c'est le psaume 15, versets 1 à 3. Éternel, qui sait Jean ? Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. La langue, hein ? Tout un programme là aussi. Alors on pourrait reparler de Jacques, des méfaits que la langue peut faire. Il y aurait plein de choses à dire sur la langue, que c'est difficile de la dompter. Alors il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi la façon dont on le dit. Et puis des fois humainement on va essayer de parler plus fort pour que l'autre nous écoute, pour qu'il nous entende. Et c'est à ça que me faisait penser la deuxième partie du verset 17 de Jérémie 35. Je les ai appelés. Ils n'ont pas répondu. Donc la première partie, c'était « Je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté. » Et là, j'ai l'impression qu'il va plus fort. « Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. » Et moi, ça me fait penser, désolée, hein, vous êtes dans l'école, parce que c'est un peu mon univers quand même, très souvent. Quand j'appelle, par exemple, des retardataires dans la cour de récré, ça va donner « Djibril, Elliot, Camille, ça a sonné !» Pourquoi je dois crier ? Ben parce qu'ils font la sourde oreille. Et c'est plus fort que parler, pour moi, appeler. Et je vois un peu ces passages comme un refus d'obéir. Mais attention, je ne dois surtout pas juger trop vite. Peut-être que l'autre ne peut pas entendre en ce moment. Parce qu'il a des problèmes d'audition. Si je ne connais pas la personne, je ne sais pas non plus ce qu'il vit. Et je dois être patiente, tout comme Dieu est patient avec nous. Et dans Luc 6, versets 27-28... Je trouve ces passages vraiment intéressants et je tenais à ce qu'on les lise. « Quant à vous tous qui m'écoutez, dit Jésus, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction. » c'est avant. Oh, ok, c'est pas grave. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. En fait, c'est l'esprit inverse. Quelqu'un nous calomnie, on va le bénir. Quelqu'un nous déteste, on va choisir de l'aimer, de prononcer des paroles de bénédiction, et encore, et encore. Et Dieu met la barre très haut, hein. Et dans Luc 6, 31, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Alors si on se rappelle de ça, ça, on peut l'appliquer partout. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Et au verset 36-37 de Luc 6, toujours, « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. » Toujours essayer de se mettre à la place de l'autre pour avoir une meilleure compréhension. Et moi, est-ce que l'autre peut me parler ? Est-ce que l'autre peut me reprendre ? Est-ce que je suis prête à l'écouter ? Alors des fois, il y a des raisons physiques. Combien de fois à la maison, c'est « Attends Philippe, je ne t'entends pas, il y a la chasse, il y a la hotte, il y a l'aspirateur !» Puis après, « C'est bon, tu voulais dire quoi ?» Donc c'est normal. Mais c'est de la prévenance de se dire « Attends, je ne peux pas t'entendre maintenant, mais maintenant, voilà, je veux t'écouter. » Mais quels sont les bruits, pas forcément d'ordre physique, qui m'empêchent d'entendre Dieu ou d'entendre mon prochain ? Et là, on a la parabole du semeur dans Matthieu 13. Alors, je veux juste citer la fin, les versets 7 à 9. « D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit. » Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Puis Jésus explique à ses disciples, et là on va au verset 13, « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas, selon la prophétie d'Ésaïe. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. » Et versets 22-23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui écoute la parole. Tiens, lui, il écoute. Mais parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Donc dans Jérémie 35, nous avons lu « Je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté », mais ici, ils ont écouté en vain, à cause des soucis et des attraits trompeurs des richesses. Ça n'a pas produit de fruits et rien n'a changé malgré la parole reçue. Donc écouter ne suffit pas, il faut aussi mettre en pratique. Alors dans Luc 6, 46 à 49, la Bible est tellement claire, moi je passerai... On peut faire comme ça, c'est plus simple. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ?» Oula. « Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi ?» C'est Jésus qui parle. Hein. « Qui écoute ce que je dis et l'applique ?» Et là, vous connaissez tous la parabole du sage sur le roc qui creuse des fondations et que les fleuves ne pourront pas faire tomber, la tempête ne pourra pas faire tomber la maison. Parce qu'elle est construite selon les règles de l'art. Et c'est celui qui vient à Jésus, qui écoute ce qu'il dit et qui l'applique. Moi, pendant longtemps, quand j'étais petite, je croyais que c'était pour les chrétiens qui avaient bâti leur maison sur Jésus. Et puis que ceux qui étaient les fous sur le sable, c'est ceux qui ne bâtissaient pas leur vie sur Jésus. Mais dans la Bible, ce n'est pas tout à fait ça. C'est celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique. Et le fou sur le sable... C'est celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis. Donc il s'agit bien d'un chrétien. Parce qu'on peut écouter les paroles de Dieu et ne pas faire ce qu'il dit. Et là, on ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur le sable, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Jacques 1, verset 22. « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Et quand je cherchais dans la concordance, j'étais frappée par le nombre de fois où on voit l'expression, c'est pas obéir à Dieu, c'est obéir à la voix de l'Éternel. Vous voyez la nuance ? Obéir à sa voix, aussi dire obéir. Intéressant. Écouter et obéir. Et désobéir en grec, parakouo, je ne sais pas comment on prononce, c'est ne pas écouter la voix de Dieu, désobéir. Alors si on revient à Jérémie 35, pour lire ce qui suit le verset 17, où on a vu les conséquences de la désobéissance pour le peuple d'Israël. Voilà. Puis Jérémie dit aux Récabites, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre ancêtre, que vous les avez exécutés et que vous avez fait tout ce qu'il vous a ordonné. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, leur ancêtre donc, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. » Or là, moi, ça m'avait touché ce passage. J'ai dit, mais ça, c'est le vœu de... tout parent chrétien, de tout pasteur, que ce soit des enfants dans la chair, que ce soit des enfants spirituels, mais c'est ce qu'on veut, que nos enfants deviennent, soient engagés avec Dieu, qu'ils soient de vrais disciples, que ce soit des adorateurs qui se tiennent chaque jour en sa présence.
autrement dit, qui écoutent Dieu et qui lui obéissent, qui sachent l'entendre et lui obéir. Donc ça, c'est le but de notre vie chrétienne. Parce que si on sait entendre Dieu, l'écouter et lui obéir, on va pouvoir avancer sur son chemin en sécurité, même quand c'est difficile. Mais voilà, il faut qu'on pense sans cesse à bien revenir à la base, à bien surveiller notre langue, bien surveiller notre cœur, puisque c'est de là que viennent toutes choses, et qu'on cultive cette relation avec le Seigneur. J'avais une pensée pendant que je préparais ça. Je pensais à ceux qui ont pu être attaqués, entre guillemets, au niveau de leurs oreilles, physiquement. Je sais que Jean-Samuel, c'était ton cas. Moi, j'ai passé une enfance avec des... Et je me demandais si... Et ça me faisait penser au fait de proposer peut-être qu'on se lève si on veut que le Seigneur guérisse nos oreilles, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel, pour qu'il nous aide à entendre sa voix et qu'il nous aide aussi à nous placer devant lui, à choisir de lui obéir, comme les Récabites. Et puis peut-être aussi... Alors, je ne sais pas, on peut. Donc, ceux qui veulent, moi, je me lève. Je veux entendre Dieu, je veux avoir des oreilles qui l'écoutent. Donc, je vous encourage, si c'est votre choix, à vous lever pour qu'on puisse prier ensemble et que quelque part, ce qu'on a entendu, que ça soit suivi d'un acte concret et qu'on choisisse, oui, je veux t'entendre, Seigneur. Et puis, par rapport à notre bouche, notre langue, je pensais au passage dans Ésaïe 6, où il se retrouve face à Dieu qui est saint, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et les anges chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et Ésaïe s'écrit « Malheur à moi, j'ai vu Dieu, et mes lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures ». Et un séraphin vient vers lui touche ses lèvres et lui dit « Aujourd'hui, ton péché est expié ». Et nous, on sait que Jésus a payé pour nous. On sait que Jésus peut nous laver. Il veut laver, purifier pour que... Et nous, notre choix, à nous ce matin, je crois, c'est de la même manière qu'on peut lui consacrer nos oreilles et notre cœur, qu'on puisse être dans la reconnaissance, voir les bonnes choses, et quand il arrive qu'on ait des constats négatifs à faire, qu'on choisisse tout de suite après de prier, de bénir, de pardonner, et que ça devienne un style de vie. Alors je sais que beaucoup d'entre vous font déjà ça, mais je pense que c'est important qu'on se remette en question régulièrement et qu'on soit prêt à reconsacrer sans cesse notre vie au Seigneur. Philippe, je peux te demander de venir prier, s'il te plaît.
Oreilles, Seigneur, pour entendre et pour t'entendre premièrement, Seigneur, une bouche pour parler, Seigneur, et pour dire tes louanges, mais aussi, Seigneur, les choses qui sont bonnes, qui sont justes, qui méritent l'approbation, Seigneur, comme dit ta parole, pas seulement des pensées, mais aussi des paroles qui soient justes, qui sortent de nos bouches, Seigneur. Seigneur, on reconnaît qu'on a tellement besoin de toi, Seigneur, pour cela. Seigneur, que tu nous donnes vraiment ton cœur, Seigneur. Et tes oreilles, Seigneur, pour écouter, pour entendre, et aussi pour t'obéir, Seigneur. Donne-nous un cœur qui désire non seulement entendre, mais mettre en pratique, Seigneur, tout ce qu'il a entendu de toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être comme Samuel qui ne laissait tomber aucune parole à terre. Et pour tous ceux, Seigneur, qui gardent ta parole dans leur cœur, qui la serrent, Seigneur. Seigneur, donne-nous ce cœur, Seigneur, pour... aimer la justice, aimer la vérité, aimer la droiture, aimer ce que tu aimes tout simplement, Seigneur. Seigneur, je me souviens souvent de ce verset qui dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as haï l'injustice, Seigneur. Alors Père, nous te demandons de nous donner ce cœur comme Jésus, ce cœur qui aime la justice, qui aime la vérité, qui aime la droiture, qui aime marcher dans tes voies, Seigneur, et pas écouter, mais... Et mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous dis, Seigneur, à chacun. On te demande, Seigneur, de circoncire nos cœurs, circoncire nos oreilles, Seigneur, et nos bouches, aussi, Seigneur, que nous puissions aligner nos cœurs sur le tien, Seigneur, qui tu es juste, Seigneur, pour les bons comme pour les mauvais, comme dit ta parole, Seigneur. Tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes, comme dit ta parole, Seigneur. Et tu dis, Seigneur, si nous disons, nous aimons seulement ceux qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, que faisons-nous d'extraordinaire, Seigneur? Seigneur, donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux, donne-nous tes oreilles, Seigneur, et pour faire ta volonté, Seigneur, quotidiennement. Et par-dessus tout, Seigneur, donne-nous, Seigneur, c'est ne nous attacher à toi et Seigneur, être comme Marie, Seigneur, qui était là pour t'écouter, Seigneur, qui voulait entendre ta voix. Et aussi comme Adam, qui est dans le jardin, Seigneur, entendait le murmure et écoutait, Seigneur, ta voix et parlait avec toi, Seigneur. Continue, Seigneur. Continue, Seigneur, de nous conduire sur ce chemin, Seigneur, les uns et les autres, Seigneur.